On sait tous et toutes que nos enfants sont intelligents. On a entendu parler du fait qu'il se passait plein de choses avant 5 ans. Mais en fait, on n'est pas vraiment capable de dire quoi précisément. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nawal Aboub, qui est une scientifique, qui est une docteure en neurosciences, docteure en sciences cognitives en fait plus précisément, qui donne également des cours à Normalsup et qui est l'autrice d'un bouquin que j'ai trouvé génial qui s'appelle « La puissance des bébés ». Et avec Nawal, on va parler de tout ce qui se passe dans le cerveau pour le bébé, du coup, quand il est encore à l'intérieur du ventre de sa maman. Et puis, dans ses 5 premières années, on va parfois débunker quand c'est nécessaire. Mais on va surtout parler du langage, parce que c'est la grande spécialité de Nawal. Et Nawal, là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle ne fait pas que des sciences et parler des choses. Elle met en pratique aussi dans l'associatif, elle met en pratique avec des parents pour voir concrètement comment ça se passe. Je vous laisse écouter cette conversation qui, je suis sûr, va vous intéresser. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Nawal.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ben ça va très bien, je serais contente d'être là.
Et ben moi aussi. On va parler de la puissance des bébés. Et je voudrais peut-être comprendre d'abord pourquoi avoir fait un bouquin qui s'appelle « La puissance des bébés ».
Parce que la plupart du temps, quand on parle des bébés, on parle de leur immaturité, de leur incapacité. Et moi, j'avais envie de parler de un peu l'arbre qui cache la forêt, de finalement leur grande puissance pour apprendre des choses très complexes très très vite.
C'est quoi la chose peut-être la plus surprenante que tu as appris sur leur cerveau? C'est pas commun, d'ailleurs tu l'expliques dans le bouquin, que c'est pas commun d'avoir fait des études de neurosciences sur les bébés, parce qu'il faut quand même leur mettre un casque sur la tête, l'air de rien. Il faut que les parents acceptent, par ailleurs. C'est quoi la chose la plus surprenante que tu as appris?
À quel point les parents, ils nous faisaient confiance pour faire des expériences sur des tout-petits. Parce que quand on vient d'accoucher et qu'on donne son bébé de 2 jours de vie à une doctorante qui parfois hésite sur ses gestes ou même sur les explications, je me dis vraiment, ça a été une des choses les plus surprenantes. Je ne m'attendais pas à autant d'un accueil aussi bienveillant des parents. Et puis l'autre chose vraiment où j'ai trouvé ça juste incroyable, c'est quand j'ai vu les premiers résultats de mes recherches. Je pense que quand j'ai commencé à tester des nouveau-nés et que j'ai vu les résultats, je me disais, ah mais en fait, il se passe vraiment quelque chose.
Et ouais, c'est fou parce que moi, j'ai appris des tonnes de choses. Et en particulier, un des premiers trucs qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que le fœtus dans le ventre, il entend, il se passe vraiment des choses. Tu peux nous parler de l'évolution du cerveau du fœtus jusqu'à la naissance?
Bah, comme tu le dis, en fait, les études sur le fœtus, elles sont très très rares parce que c'est extrêmement difficile d'accéder au cerveau d'un bébé qui est encore dans le ventre de sa maman. Et on a eu des chercheurs fabuleux, notamment français, qui dans les années 70-80 ont beaucoup exploré cette question. Et au départ, ils ont beaucoup exploré l'audition. Et c'est là où ils se sont rendu compte que les bébés finalement entendaient déjà pas mal de choses en fait dans le ventre de la maman. Pas n'importe quoi. Ils entendaient tout ce qui était la musique de la parole. Et on voyait qu'ils réagissaient, en plus de la musique de la parole, aux voix familières. Donc quand c'était la voix de la maman, on voyait que le fœtus, son rythme cardiaque s'accélérait par exemple. Donc c'est comme ça au début qu'on a commencé à étudier les compétences des fœtus. Et puis là, ces dernières années, on a vu un boom très important de ces recherches, parce qu'on a eu d'autres méthodes en fait, qui nous ont permis de voir en ultrasons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que par exemple, même les fœtus voyaient dans le ventre de la maman.
Ah oui.
Ouais, la vision, contrairement à ce qu'on imagine, elle commence déjà in utero. Et de temps en temps, ils ouvrent les yeux et ils sont réceptifs en fait, à des signaux lumineux déjà très très tôt.
C'est fou. Alors, la question que je me suis posée, mais que je ne crois pas que tu traites dans ton livre, c'est... En fait, j'ai l'impression que ça pourrait être utilisé par les personnes qui sont anti-avortement. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question-là, mais à partir du moment où tu dis, en fait, un fœtus, il entend, il voit, etc. En fait, il a un cerveau, il réfléchit, enfin, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va à l'encontre, pour toi, toute la défense de l'avortement?
Alors, les recherches dont je viens de te parler, toutes ces choses, on les a découvertes, c'est des choses qui apparaissent au cours du deuxième et troisième trimestre.
Donc
déjà, beaucoup plus tardivement au départ, le système nerveux, ça reste un système nerveux qui, évidemment, hein, qui a une fonctionnalité, qui se développe, mais on n'en est pas au point de voir, d'entendre la voix de sa mère quand on est encore à 9 semaines de conception. Donc du coup, ça, je pense que c'est aussi pour ça que les règles sur l'avortement ont été fixées à une certaine date.
Une autre chose qui m'a marqué, c'est le rôle de l'alcool. Et aussi de la dépression de la mère potentiellement. Tu peux nous expliquer comment ça peut avoir des impacts sur l'enfant une fois qu'il est né?
Alors ça, ces sujets, c'est des sujets qui sont très complexes à aborder et aussi très tabous. C'est aussi pour ça qu'on les a eus très finalement tardivement. Même encore, hein, le sujet de l'alcool in utero, ça reste, voilà, ça reste toujours un débat. Ça reste toujours, même si on sait que c'est interdit, on sait que ça existe. Voilà. Et ce qu'on a appris ces dernières années, c'est à quel point l'alcool a un impact beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Alors, il y a un syndrome qui est connu qui s'appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, où ce sont des enfants qui ont des malformations physiques. Ils vont avoir, par exemple, les mains palmées. Ils vont avoir, par exemple, des muscles qui vont manquer. Enfin, et ils vont aussi avoir des retards mentaux. Mais c'est un spectre. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la sévérité et du degré d'alcoolisation auquel ils ont été exposés in utero, ce sont des enfants qui vont avoir plus ou moins certains troubles. Et comme, en fait, actuellement, on ne sait toujours pas les fenêtres un peu temporelles qui nous disent « là, il faut boire, là, il ne faut pas boire », donc on dit à toutes les mamans « ne buvez pas pendant la grossesse », parce que chaque période peut être importante. Voilà, ça, c'est une chose qu'on a appris sur l'alcoolisation. Et sur la dépression, ça aussi, c'est très intéressant. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure prise en charge de ces mamans qui vivent des grossesses dans des contextes psychiques particuliers. Et donc, on a vu qu'il y a des recherches qui ont montré que quand elles sont sous antidépresseurs, ça a des effets, notamment sur ce que nous, on appelle les périodes sensibles dans le développement du langage. On voit que ce sont des enfants qui, parfois, ont encore des perceptions très universelles de la parole. Ça veut dire qu'ils se spécialisent un peu plus tard. Peut-être on rentrera dans les détails un peu plus ça peut-être plus tard, mais ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose sur l'apprentissage, il se passe quelque chose au niveau de leur biologie et de la maturation de leur cerveau. Et ça, c'est des résultats, je crois que les premières recherches là-dessus, ça date de 2015, donc c'est hyper récent. Et je pense que ça, c'est des sujets qu'on va de plus en plus traiter pour dire à quel point c'est important.
Mais du coup, la dépression de la maman ne génère pas nécessairement une dépression de l'enfant?
Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, on sait que les enfants qui vivent dans des contextes où ils ont eu des parents qui ont vécu, voilà, que ce soit des phénomènes de dépression ou qui peuvent avoir des maladies psychiatriques comme la bipolarité, etc., il y a à la fois un caractère un peu de prédisposition, c'est-à-dire ça va être des enfants qui vont être plus vulnérables, plus fragiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le développer nécessairement. Mmh. Ça veut dire que cette prédisposition, elle est là. Et si on met un environnement, si cette maman, elle est accompagnée, si ses parents, ils sont accompagnés, et si l'enfant aussi, il y a probablement beaucoup de chances que cet enfant ne développe pas. Mais par contre, si c'est des enfants qui, à la fois, cumulent un environnement familial compliqué, une vie compliquée, une école, enfin, une non-prise en charge de tout ça, ce sont des enfants qui sont plus à risque. Et on sait que ce sont des enfants qui vont développer des troubles plus dépressifs. Ce sont des enfants qui vont avoir on va avoir des prévalences. Donc, on va avoir plus d'enfants qui vont présenter ces troubles-là, par exemple. Et ça, c'est des choses dont on ne prend pas assez conscience par rapport à ça dans nos politiques publiques.
Et alors, des trois questions que je t'ai posées, que ce soit l'alcool, la dépression, c'est les deux d'ailleurs, je me dis que ça met quand même beaucoup de pression sur les mamans, nécessairement. Est-ce que c'est noir ou blanc ou est-ce que, parce que tu disais, il y a des spectres, mais moi j'avais entendu dire qu'il vaut mieux une maman qui boit un verre de temps à autre plutôt qu'une maman qui soit complètement stressée, ou pareil pour les cigarettes. Est-ce qu'il y a une notion de quantité? J'imagine que oui, quand même.
Comme je te l'ai dit juste avant, par exemple pour l'alcool, on sait qu'effectivement, plus les bébés sont exposés in utero à l'alcool, plus on va avoir un degré important de ces choses-là. En fait, c'est vrai, mais ce que je pense, c'est que le fait de pouvoir maintenant savoir ça, c'est... Moi, à mes yeux, c'est justement ça qui va aussi nous permettre de mieux aider ces mamans, enfin ces parents, qui sont parfois dans des difficultés. Et parfois, on était dans des générations où je pense que, voilà, nos parents, ils ont fumé. Je pense qu'il y a plein de mamans qui fumaient. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça faisait le tabac sur le cerveau de l'enfant. On savait que ça faisait des bébés plus petits, mais c'était tout ce qu'on savait. Et puis l'alcool, c'était, c'est pas grave, hein, tu peux aussi... Et puis, finalement, maintenant, on sait aussi ça aide les mamans à se sentir... toutes les mamans, en général, font très attention à savoir qu'est-ce qui va faire du mal à leur bébé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des choses aussi, on va les aider. On va leur dire, regardez, voilà, en sachant ça, c'est des choses qui vont vous permettre de vivre une grossesse plus épanouie. Je préfère voir ce côté-là dans ces découvertes que le côté, justement, fataliste.
Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de fatalisme... Ce que tu expliques quand même, c'est qu'il y a une immense importance de la petite enfance. J'aimerais bien que tu nous expliques d'abord ça, parce que la question que j'ai derrière, c'est le déterminisme. Mais j'aimerais bien comprendre d'abord pourquoi la petite enfance, donc la petite enfance c'est 0-5 ans quoi en gros, pourquoi c'est si important et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau de l'enfant?
Eh bien, la petite enfance, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on a découvert qui nous a montré à quel point c'était important, c'est surtout les recherches qui ont été faites sur les fenêtres d'opportunité. Et nous, en science, on appelle ça les périodes sensibles. Je te donne un exemple, et c'est ça qui a été un peu ce qui nous a permis de découvrir ça. Ça a été ces fameuses histoires de Victor de l'Aveyron, ces enfants qu'on a retrouvés dans des certains contextes où pendant un certain temps, ils n'ont pas été exposés ni au langage, ni à l'affection. Et on a vu que ces enfants, ils ne se développaient pas de la même manière. Et surtout que non seulement ils ne se développaient pas de la même manière, mais on n'arrivait pas à réverser certains troubles. Victor de l'Aveyron, par exemple, il a été retrouvé à 9-10 ans et puis finalement, cet enfant, malgré tout ce qu'on a fait comme effort pour l'aider à apprendre à parler, c'est un enfant qui n'a jamais réussi à avoir une syntaxe correcte. Alors, il y a toujours ce côté, est-ce qu'il a été abandonné parce que déjà, c'était un enfant qui présentait certaines choses ou pas. Mais on a des histoires très récentes de Serena dans une coffre de voiture ou des orphelinats en Roumanie où on a vu des enfants vivre des déprivations, donc des environnements où ils n'ont pas été stimulés et quelles ont été les conséquences. Et de ça, nous, dans nos laboratoires en sciences cognitives et en neurosciences, on a commencé à essayer de se dire, mais pourquoi les neurones ne sont pas capables de pouvoir retrouver ça? Et il y a des chercheurs, notamment Takao Ench à Harvard, qui a montré des choses incroyables, qui montrent qu'en fait, les neurones ont ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité. Tout d'un coup, ils vont être très réceptifs à faire plein de choses, et puis s'ils ne sont pas stimulés à ce moment donné, ces neurones, ils vont faire autre chose. Et ça nous a dit que finalement, ce phénomène-là n'est qu'à ces périodes-là, au tout début de la vie. Et c'est comme ça qu'on est passé de fenêtre d'opportunité. Parce que c'est là où, si on ne nous apporte pas ce dont on a besoin, on va avoir plus de mal après à pouvoir acquérir certaines choses. Et moi, mon combat, à travers ce livre, et puis des actions que je fais au quotidien, c'est d'essayer justement de montrer à quel point, quand on s'occupe de cette période-là, quand on stimule les très jeunes enfants, eh bien, on peut donner beaucoup plus de possibilités que ce qu'ils auraient eu si on n'avait pas tenu compte de ça.
Alors du coup, naturellement, pour les personnes qui écoutent, je pense que la question, c'est ok, mais alors comment je stimule correctement le cerveau de mon enfant? Comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire?
Alors, je pense qu'il y a un peu deux points pour moi qui sont importants. Un parent, il veut toujours savoir comment bien faire avec son enfant. Et maintenant, on a plein de choses qui nous permettent de savoir comment bien communiquer avec lui. Parce que quand ils sont tout petits, ils nous regardent. Et puis, quand on leur parle, ils ne nous répondent pas. Et en tant que parent, on se dit, mais il m'a compris, là. Est-ce que vraiment... Ou alors, on a envie de lui donner tellement d'amour et on attend tellement qu'il nous dise, oui, je t'aime, maman, je t'aime, papa. Eux, ils s'en fichent, ils partent en courant. Vous voyez? Donc, évidemment, le plus important pour moi, c'est, en tant que conseil que je peux donner, c'est ne les sous-estimez pas. Parce que, justement, leur intelligence est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Et parler avec un tout petit, et je dis bien parler avec et pas parler à, pas toute la journée lui raconter ce que vous faites, ou etc. Parler avec lui, poser lui des questions sur ce qui l'intéresse, etc. Parce que déjà, ça, en fait, c'est des choses, dans la recherche, on a appris que c'est décisif pour eux. Que c'est grâce à tous ces petits gestes que vous allez faire, le regarder dans les yeux, se mettre à hauteur, lui poser des questions, attendre ses réponses, parce que les tout-petits, il leur faut du temps pour pouvoir répondre. Et puis, même s'ils se trompent, de dire « Oh, c'est pas grave, le vrai mot, c'est ça », ou alors « Non, c'est pas une balle, mais c'est le chien », eh bien, toutes ces choses, vous allez l'aider, en fait, à découvrir le monde. Et leur donner envie, les encourager, les valoriser, même s'ils se trompent, même si c'est pas exactement ça. Mais du moment qu'ils ont fait l'effort pour essayer de le faire, ça, c'est déjà des choses qui sont géniales pour les enfants. Plutôt que de leur dire « Non, c'est pas ça ». Voilà. Bon. Alors, je pense que tous les parents, oui, à un moment donné, on dit ça dans le quotidien, mais on va dire que dans la balance, si on fait 70% de l'un et 30% de l'autre, je pense que ça peut encore aller.
Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est sur l'apprentissage du langage, qui est vraiment ta spécialité. Il y a des choses qui sont très majeures. Est-ce qu'on apprend à parler? Est-ce que tu parlais de la musicalité des voix dans le ventre? Est-ce qu'un enfant, il apprend déjà une langue quand il est dans le ventre de la mère? Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour être bilingue, ça se joue dans les tout premiers mois, en fait, aussi, de la naissance.
Ça, c'est vrai que c'est une de mes spécialités et c'est aussi une de mes découvertes que j'ai fait pendant ma thèse. Et au départ, on ne devait pas du tout travailler là-dessus. Moi, je devais juste observer, regarder comment les bébés percevaient certains indices musicaux de la parole. Et moi, j'étais dans un hôpital où j'ai eu la chance d'avoir plein de mamans qui venaient de plein de pays différents. Et donc, du coup, je leur demandais, vous parlez quelle langue? Alors, c'est drôle parce que celles qui parlaient l'anglais ou l'italien, il n'y avait aucun souci. Mais par contre, celles qui parlaient Bambara, Peul ou Soniké, elles me disaient, non, c'est ma langue du pays, c'est un dialecte. Ou même le creole, elles me disaient, non, c'est un dialecte. Et, Et moi, j'étais pas linguiste, hein, donc quand elle me disait ça, je me disais, bon, bah, je vais aller regarder c'est quel dialecte. Et puis, je me rendais compte que c'était pas un dialecte du tout, c'était des langues parlées parfois par des millions de locuteurs. Et donc, tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à récolter pas mal de données, mais j'avais des soucis dans mes analyses, c'est-à-dire que je voyais des signaux qui étaient bizarres. Je voyais que parfois, j'avais des artefacts, j'arrivais pas à vraiment interpréter ce que je voyais. Et quand j'ai commencé à me dire, mais finalement, il faut peut-être qu'on regarde les langues maternelles, parce que peut-être ça joue. Et j'ai séparé mes groupes, et là, j'ai vu qu'effectivement, entre mes bébés bilingues, donc ça veut dire mes nouveau-nés de 2 jours, qui avaient entendu du français et une autre langue, versus juste les monolingues français avec des mamans monolingues, bah, je voyais des différences énormes. Et ça, c'est lié aussi au fait qu'en fait, en français, on a des particularités musicales. Nous, en français, on a les langues de ballade, de romance, on varie la durée. Mais les Américains ou même les Australiens, ou je sais pas, enfin, je sais pas si vous allez... même vous allez en Algérie ou vous allez en Pologne, les langues ont un accent. C'est-à-dire qu'on va dire, on va pas dire, nous on dit bébé, donc c'est exactement la même chose, mais les Anglais ils disent baby. Et d'ailleurs, même nous, quand on les entend, on se dit mais c'est too much, ils peuvent pas juste parler normalement. Et donc en fait, cette musicalité, je me rendais compte que mes tout petits bébés avaient déjà, en fait, ceux qui avaient entendu ces langues accentuelles étaient beaucoup plus réceptifs à des différences de tonalité. Ils étaient très forts pour reconnaître des différences très subtiles, alors que mes monolingues français, pas du tout. Et c'est là où on a commencé à se dire, mais finalement, ils apprennent déjà des caractéristiques des langues maternelles, et donc ils se spécialisent déjà in utero. Et ça, c'était assez nouveau, en fait, parce que personne n'avait vraiment montré ça auparavant. On le voyait à 6 mois, 7 mois de vie, mais dès la naissance, ça, c'était vraiment très récent. Et donc, j'espère qu'il va y avoir plein d'autres recherches qui vont creuser un peu cette question, mais je trouve que pour toutes les mamans, c'est super de se dire ça, qu'elles transmettent déjà plein de choses de ce qu'elles sont. Et puis, les papas aussi.
Et c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe pour la voix du père? Est-ce que la musicalité, est-ce que le fœtus in utero, il entend aussi le père, j'imagine, et il y a un rapport affectif, on peut dire ça?
Oui, bien sûr. En fait, là, alors c'est drôle parce que pareil, on a beaucoup étudié la voix de la mère, mais le papa, on l'a beaucoup mis de côté, nous, en sciences. Alors, je pense que c'est parce qu'il y avait tellement à découvrir déjà avec la maman que peut-être... Mais du coup, là, depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la voix des papas. Et ce qu'on retrouve comme résultat, c'est que quand les papas ont parlé au bébé in utero, notamment dans le dernier trimestre de grossesse, eh bien, à la naissance, on voit que les bébés reconnaissent la voix du papa. Et ça, c'est quand même super, parce que ça veut dire qu'un lien se crée déjà, même s'il est pas vous ne portez pas l'enfant. Et par ailleurs, cette préférence, elle augmente en fait, au fur et à mesure de la première année. Donc vraiment, un lien peut déjà se créer, même si vous ne portez pas l'enfant. Et ça, c'est aussi pour les mères porteuses ou pour toutes ces...
Ces
grossesses qui peuvent être différentes.
Je te disais tout à l'heure, un des trucs qui m'a surpris, c'était l'apprentissage du bilinguisme. Parce qu'en fait, ça se joue hyper tôt. Tu peux nous expliquer ça aussi? Parce que c'est très très tôt. C'est-à-dire que passer un an, c'est déjà trop tard. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Peut-être que j'ai mal compris.
En fait, je pense que j'ai tellement mis l'accent sur il faut les simuler très tôt que je pense que tout le monde maintenant aura. Mais tant mieux, vaut mieux ça plutôt que l'inverse. En fait, le bilinguisme précoce, il apparaît très tôt si la mère et le papa parlent autant une langue que l'autre. Mmh. Et donc si ça commence déjà in utero et ça continue pendant la première année de vie, effectivement, les bébés, déjà, on voit apparaître des effets du bilinguisme à la naissance, mais ça s'amplifie pendant pendant 7 à 12 mois, on va dire ça comme ça. Mmh. Et là, on voit vraiment apparaître des spécialisations pour les sons de la langue, pour la grammaire de la langue. Et on voit effectivement que dès 7 mois, les bébés bilingues ont déjà appris les grammaires de leur langue, l'ordre des mots, notamment, d'abord c'est le verbe dans certaines langues et après c'est le sujet. Par exemple, en japonais, c'est Tokyo ni, je vais à Tokyo. Enfin, c'est à l'inverse de nous. Les bébés l'apprennent dès 7 mois.
Même s'ils ne parlent pas.
Et c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou. Mm. C'est ça qui est fou.
Mais alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir bilingue après 7 mois. Hein,
C'est ce que j'avais compris, moi.
Mais par contre, justement, ce qu'on a découvert sur les périodes sensibles, c'est que c'est des périodes optimales pour le cerveau. Ça va être le plus facile pour lui de l'apprendre. Après, passer ces périodes-là, c'est pas que ça va être impossible, ça va être plus difficile. L'effort que vous allez devoir fournir pour pouvoir parler une autre langue, elle va être, à partir de 7 ans, 8 ans, ça va être de plus en plus difficile. Et c'est pas pour autant que c'est impossible, parce que moi, je parle anglais, mais par contre, j'ai toujours mon accent de française. Quand je dis Manhattan, je dis Manhattan, je dis pas Manhattan. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un charme aussi, mais ça n'empêche que pour pouvoir maîtriser, du coup, parfaitement les langues et les sonorités, il va falloir s'entraîner très, très, très longtemps. Et de manière très intensive, alors qu'un bébé en quelques mois, en quelques années, il le fait.
C'est intégré. Tu parlais tout à l'heure de périodes sensibles, donc là on a parlé des langues. C'est quoi les autres périodes sensibles entre 0 et 5 ans? Comment ça se développe? Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette période?
Alors en fait, dans les périodes sensibles, ce qu'on sait, c'est que le cerveau, il a une vitesse, on va dire, de croisière pour grandir. Et donc au tout début de la vie, ce qui va être très important, c'est stimuler ce qu'on appelle les aires primaires. Donc l'audition, la vision, le toucher, enfin voilà. Donc on sait que des enfants qui vont être, par exemple, bon, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, en réalité, mais on l'a fait dans des modèles animaux, on a enlevé, on a caché les yeux, on a empêché un chat de bouger pendant les premiers mois. Mais on sait qu'après, ces enfants, ces espèces-là n'ont pas pu se développer correctement, ils ne pouvaient plus marcher, ils pouvaient plus... Toutes ces choses un peu de base qui constituent voilà, les choses vitales. Et puis... La deuxième couche qui s'ajoute à ça, c'est que si jamais, effectivement, on a quand même ces choses-là, mais d'une quantité, d'une qualité moindre, bah, on sait aussi que ça va faire varier, du coup, les vitesses de notre cerveau. Par exemple, on sait que les enfants qui ont des... Bah, ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui sont exposés, par exemple, à des substances... notamment les... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails moléculaires, mais en l'occurrence, on sait que c'est des enfants qui vont avoir des décalages dans la vitesse de maturation de leur cerveau. Mmh. Donc, et ça, on l'a observé voilà, jusqu'à à peu près 5 ans. Après, on sait qu'il y a d'autres pics. Hein, à l'adolescence, il y a des pics de plasticité dans certains endroits, notamment dans le cortex pariétal et dans le système des émotions, etc. Donc, on sait que le cerveau, il va avoir une certaine vitesse de croisière, mais là où elle est la plus rapide, la plus importante, c'est avant 5 ans.
D'ailleurs, tu parlais des différentes zones dans le cerveau. Tu peux nous en parler? Tu peux nous expliquer les différentes zones qu'il y a dans un cerveau?
Alors, la première, une des choses qui est très importante pour un humain, c'est la vision. Et donc, la vision, elle est derrière, juste au niveau de votre nuque, au-dessus de votre nuque. C'est le cortex occipital qui s'occupe de traiter tous les signaux visuels. Ensuite, juste à côté de vos oreilles, vous avez les lobes temporales. Donc, temporal, temp, c'est pour traiter tout ce qui concerne la musique, le langage, les bruits. Ensuite, vous avez le lobe pariétal, qui est un tout petit peu plus haut que le lobe occipital, qui est un peu, voilà, on va dire, en haut de votre cerveau, là où il y a la petite calvitie, là, des... On va dire ça comme ça pour que les gens puissent se représenter les choses. et donc là, le lobe pariétal, il s'occupe de tout ce qui concerne la représentation dans l'espace. Et aussi même les matheux, les profs de mathématiques très avancés, utilisent cette zone-là pour résoudre des équations. Donc on sait que c'est une zone importante dans tout ce qui concerne l'approche spatio-temporelle mathématique. Et puis enfin, je pense que ça, tout le monde le connaît, le cortex frontal, qui s'occupe de toutes les fonctions de très haut niveau en fait, de notre personnalité. C'est le chef d'orchestre un peu de nos prises de décision. Et donc c'est celui qui, d'ailleurs, dans le développement du cerveau, se développe le plus tardivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir gérer toutes ces hautes fonctions cognitives, bah, il faut bien être entraîné pendant des années et des années. Et on sait que la maturation, parfois, ça arrive jusqu'à 25, 30 ans. Je pense même qu'il y a certaines manips qui montrent que ce serait un peu plus tard, mais à confirmer. Mmh. Voilà.
Et tu parlais de plasticité du cerveau. Est-ce que le cerveau, il est plastique toute la... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que c'est vrai toute la vie? Et c'est, du coup, de ce que tu dis, c'est que c'est vraiment particulièrement vrai dans les 0-5 ans, c'est ça?
Oui, alors en fait, donc, dans le livre, j'en parle pas mal de dire, on a dit que c'est plastique, mais plastique, finalement, c'est pas le bon terme parce que c'est comme s'il pouvait se déformer, se reformer à l'infini, alors qu'en réalité, notre cerveau, il peut pas faire ça. D'ailleurs, malheureusement, si les personnes qui ont des AVC... si on aurait cette plasticité, bah, les gens retrouveraient tout de suite la parole si jamais ils la perdent, ils pourraient retrouver leur personnalité, voilà. Donc du coup, ce qu'on sait, c'est que la capacité du cerveau à se réorganiser, c'est-à-dire que, je te donne un exemple, une enfant qui avait des crises épileptiques très importantes, et les crises épileptiques, en général, elles se situent dans le lobe temporal. Et elle, malgré tous les traitements médicamenteux, elle n'était pas réceptive. Donc, dès qu'elle faisait des crises, la pauvre, c'est des crises qui sont très importantes. Donc, il y a des neurochirurgiens qui ont découpé une zone dans son cerveau, dans le lobe temporal, et notamment à gauche. Et il faut savoir que cette zone, elle est très importante pour le développement du langage. C'est tout, toi, moi, on active cette zone-là. Ils ont resséqué cette partie-là chez cet enfant. Et ces médecins, à cette époque, étaient, voilà, ils disaient, est-ce qu'elle va pouvoir parler normalement? Est-ce que... Et bien, cet enfant, on a vu que les zones du langage sont passées à droite. Et elle parle normalement, elle a un QI normal, elle n'a pas de problème sur d'autres aspects. Et alors que si ça s'était arrivé à une personne de 45 ans, on n'aurait pas pu retrouver ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le cerveau est encore en train de s'organiser, se réorganiser, et il est le plus puissant pour le faire. Et donc, c'est pour ça que cette notion de plasticité, c'est pas vraiment... Elle a des propriétés particulières en fonction des âges. Et donc, c'est pour ça que ce qui va se passer en termes d'acquisition de compétences et de stimulation en fait intellectuelle est très important pour pouvoir justement faire grandir ces réseaux-là pour qu'ils puissent après derrière se sentir assez à l'aise pour faire n'importe quoi. J'ai envie de dire ça comme ça.
Et il y a une chose qui m'a surpris aussi, c'était sur les émotions, l'empathie ou d'autres qui n'était pas forcément inné, c'est ça, de ce que je comprends, c'est acquis quand même. Ça vient pas naturellement.
C'est ça qu'on a beaucoup appris ces dernières années. En fait, il y a eu des périodes dans l'histoire de la science, et notamment des neurosciences, c'est de dire, il y a tout qui est génétique. Si vous avez ça, c'est génétique. S'il y a ça, c'est génétique. Et puis, on a eu justement des données qui nous ont montré que on pouvait avoir des prédispositions génétiques, mais pour autant pas les développer. Par exemple, vous pouvez avoir vos deux parents diabétiques. Si vous, derrière, vous mangez pas du sucre toute la journée et vous mangez pas gras salé, vous ne le serez pas. Donc, ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses qu'on peut faire dans son environnement pour faire en sorte qu'on déjoue un peu cette fatalité. Et pour revenir à ta question sur, l'empathie, mais comme plein d'autres compétences sociales, en fait, notre cerveau, quand on est le bébé, a des réseaux qui vont permettre de traiter ces informations sociales. Par exemple, un nouveau-né qui vient de naître, si jamais il y a un autre bébé qui va pleurer à côté de lui, il va commencer à pleurer. Ça s'appelle la contagion émotionnelle. Donc, ça veut dire qu'il reçoit ce signal émotionnel. Et lui, comme il est en train justement d'apprendre à gérer ses émotions, il va, au fur et à mesure du temps, arrêter. Enfin, au début, il va pleurer parce qu'il va réceptionner ça et puis il va apprendre à réguler ses émotions. Mais nous, les humains, on a cette contrainte de ces compétences, elles ne peuvent s'acquérir que si on nous aide à le faire. Et donc, c'est là où l'éducation rentre en compte, parce que l'empathie, comme toute autre compétence, s'entraîne, en fait, s'apprend. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas naturel, en fait, d'être empathique. Et c'est pas naturel d'apprendre le langage. Tout ça, on doit être stimulé pour pouvoir le faire.
D'ailleurs, tu parlais de la gestion des émotions. Comment ça se passe? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont complètement perdus avec leurs enfants, en particulier quand ils sont en bas âge. Mais comment ça se passe, la gestion des émotions chez un enfant? Pourquoi parfois il pleure et on ne comprend pas? En fait, il n'a pas faim. On n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau?
Alors, les pleurs, c'est vraiment le problème le plus complexe qu'un parent a à résoudre. et que les scientifiques, par ailleurs, ont aussi un gros problème là-dessus, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas non plus beaucoup de recherches là-dessus. D'ailleurs, même les recherches qui ont été faites sur les émotions, franchement, elles sont très récentes sur les très jeunes enfants, même chez l'adulte, par ailleurs. Parce qu'avant, pour nous, pour certains scientifiques, les émotions, ça ne faisait pas partie d'un système intelligent. Mais depuis ces dernières années, ça change. Donc, on est très heureux de voir que ça change. Donc, si tu veux, sur ces aspects-là, c'est quand même assez récent. Mais par rapport à ça, justement, il faut dire qu'un enfant qui vient de naître, et même jusqu'à ses 5 ans, c'est un enfant qui est en train d'apprendre ce qui se passe, et même ce qui se passe en lui. Et les tout-petits, quand ils commencent justement à avoir ces phénomènes de pleurs, ça, c'est des réactions un peu automatiques de « là, je me sens pas bien, il y a un mal, j'ai mal au ventre, ma jambe me gêne, j'ai trop chaud, etc. » Du coup, je vais exprimer mon besoin d'inconfort et de me dire « débarrassez-moi de cette écharpe » ou « mettez-moi un biberon à chauffer là parce que j'ai trop faim » et parce qu'ils n'ont pas encore la parole, ils ne savent pas encore exprimer un besoin. Mais sachant que le pleur exprime toujours un besoin. Et après, il faut essayer de décoder qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure de leur développement, ces pleurs vont au fur et à mesure aussi s'exprimer dans certaines conditions. On va avoir des pleurs quand on va vouloir absolument faire quelque chose et on est frustré de ne pas pouvoir avoir ça. Et là, c'est aux parents de résister. Et là, je pense aux écrans, de dire non, stop aux écrans, parce que là, ça va te fatiguer. Et même si tu pleures, je comprends que tu es frustré. Mais je pense que du coup, là-dessus, là où on peut accompagner les parents, aider les parents, c'est de dire mettez des mots là-dessus. Moi, je vois souvent des parents qui me disent « Oui, non, mais du coup, il pleure. » Bah, mais t'es émotionnel. Oui, je sais que t'es frustré, je sais que t'es pas bien, je sais que t'as de la peine, mais là, tu vois, on doit faire ça. Là, viens, on va faire un autre jeu. Tiens, là, regarde, tag, mamie, elle vient d'arriver, ça va être bien. Tiens, là, mettez des mots là-dessus. Développez vous aussi votre intelligence émotionnelle en tant que parent, parce que ça va vous aider justement à mieux comprendre votre enfant. Et lui aussi, ça va lui apprendre à mieux gérer ses émotions. Parce qu'un enfant ne sait pas nécessairement, ah bah là c'est de la peine, là c'est de la frustration, là c'est... Il va apprendre grâce aux mots que vous allez employer avec lui. Et il ne faut pas en avoir peur. Parfois il y en a qui sont là, non mais je ne vais pas lui dire que ça fait de la peine, parce que quand même c'est un enfant. Oui mais la vie c'est pas juste du bonheur tout le temps, c'est aussi d'autres choses.
Et ça suppose aussi d'intégrer que l'enfant il est intelligent. Enfin, parce que la manière dont tu parles, même j'imagine, enfin, tu peux utiliser un ton qui est plus ou moins... approprié, on va dire, mais disons que c'est des discussions quasiment d'adultes, enfin, que tu vas employer avec un nouveau-né plus ou moins, mais en tout cas un enfant.
Mais j'ai envie de, parfois, c'est pas nécessairement juste des discussions, enfin, comment dire, même parfois entre adultes, on se dit pas ça. Donc du coup, c'est dur de l'avoir avec son enfant. On se dit pas, bah là, tu m'as fait de la peine, on va rentrer en conflit, et puis voilà. Donc c'est aussi tout un processus à avoir. Et donc, par contre, la grande différence, c'est qu'un enfant, lui, il sait pas. Donc, il faut lui apprendre. Et parfois, on a l'impression qu'on entend ces mots, il fait des caprices. Mais un enfant, il ne fait pas de caprices. Il n'a pas encore compris certaines choses. Donc, il ne sait pas que ça, en fait, ne pas regarder trop longtemps la télévision, bah, ça ne va pas être bon pour lui. Il ne sait pas que ne pas mettre la main sur le feu, ça va le brûler. Enfin, il ne sait pas tout ça. Donc, il y a des fois où parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, on ne leur parle pas. Et moi, dans mon livre, j'ai voulu montrer à quel point, justement, ils comprennent des choses. Déjà, à 18 mois, ils ont une compréhension qui est très importante. Et même à 6 mois, ils connaissent déjà des mots. Ils disent jusqu'à une cinquantaine de mots du vocabulaire. 6 mois. Donc, je pense que clairement, on peut vraiment être juste convaincu qu'en fait, ils vont comprendre ce qu'on dit. Alors, bien sûr, on ne va pas non plus utiliser des mots trop sophistiqués quand on lui demande quelque chose à faire ou quand on veut expliquer quelque chose. Ben on utilise des mots qui sont adaptés à l'enfant.
Et du coup, ça veut dire qu'il n'est pas forcément autocentré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi ça, qu'un enfant, il est hyper autocentré, qu'il ne pense qu'à lui, que du coup, en particulier quand il est un peu plus jeune, tu vois, il prend ses jouets et puis il ne veut pas les prêter. Enfin, ouais. Tu vois tout ce à quoi je fais référence. Ouais. Et en fait, c'est juste parce qu'il ne comprend pas, c'est ça ?
Bah, il va apprendre. C'est ce qu'on dit, c'est que les enfants, ils sont dotés de capacités pour pouvoir comprendre les choses, mais les connaissances ne sont pas encore à l'intérieur. Donc, du coup, apprendre à partager ses jouets, apprendre à s'excuser quand on a fait de la peine à quelqu'un, quand on a attrapé trop fort et que du coup, ça lui a fait mal, bah, tout ça, ça s'apprend. On dit « excuse-moi, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça ». On lui explique. Et ça vient pas tout seul. Donc, et puis, ça vient aussi des modèles qu'il voit. Donc, il faut être exemplaire. Si on demande aussi des choses à l'enfant, il faut soi-même se l'appliquer. Donc effectivement, le fait que les enfants soient auto-centrés, c'est aussi parce que leur cerveau est en train de se développer. Ils vont, au fur et à mesure du temps, développer leurs compétences, mais il n'y a pas tout encore qui est dedans. Donc il faut les aider à dire « Non, mais là, tu n'es pas tout seul. Il y a ton frère qui veut aussi se jouer, donc tu vas lui prêter. » Et c'est comme ça que les enfants ils vont apprendre à prêter. Parce qu'au début... de la vie, personne ne veut prêter à quiconque. Hein, d'accord ?
C'est pas naturel.
C'est pas naturel, ça s'apprend. Et c'est pour ça que ces règles morales, c'est très important aussi qu'ils les acquièrent tôt, parce que c'est ce qui va leur permettre après, derrière, d'être plus à l'aise quand ils seront en collectivité, quand ils seront à l'école, etc. Et de laisser tout faire. Alors bon, on est aussi dans je sais qu'il y a différents courants en ce moment en psychologie ou dans l'accompagnement des enfants, mais les règles, le cadre, c'est très important.
La psychologie... Non, comment on appelle ça ?
Psychologie positive, j'ai jamais entendu... ma mère qui est psychologue me dit tout le temps, parce que j'ai jamais été formée à la psychologie négative, à ce que je sache, mais bon...
voilà. Il y a un fun fact que j'ai lu dans le livre qui était... est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le cerveau des humains, il est particulièrement plissé ? c'est un détail, mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
moi aussi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. En fait... moi, je suis neurobiologiste, donc moi, j'ai découpé des petits cerveaux de souris. Et les cerveaux de souris, ils ont cette particularité d'être tout lisses. Mais le nôtre, absolument pas. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand le cerveau va se développer, il va, au fur et à mesure, se creuser, en fait. On va voir apparaître des sillons, un peu comme si c'était des sillons de montagne, en fait, qui vont commencer à se creuser. Et par exemple, entre la 27 semaine d'aménorrhée, donc dernier trimestre de grossesse jusqu'au terme à 39, on voit qu'ils se plissent de plus en plus jusqu'à après même 3-4 ans. Et ces plissements, c'est pas n'importe où, parce qu'en fait, les sillons principaux, on les a tous pareils au même endroit. Alors parfois, ça va varier d'un petit millimètre ou deux, mais globalement, on a à peu près tout ça. Pourquoi ça se plisse, et c'est ça qui est l'explication qui est hyper intéressante, c'est que pour gagner en place, pour pouvoir mettre plein de neurones, il faut qu'on plie en fait les surfaces et les tissus. C'est un peu comme quand, je donne ça comme exemple dans le livre, c'est un peu comme quand vous rangez vos couettes ou vos housses de couettes, vous êtes obligé de les plier parce que c'est hyper en surface, c'est compliqué de mettre tout au même endroit. Donc du coup, ça c'est un phénomène en fait qui nous montre que ça, c'est spécifique d'ailleurs à l'espèce humaine, et ce qui nous montre que c'est pour ça que nous sommes dotés de si hautes compétences cognitives, c'est parce qu'on a des tissus cérébraux beaucoup plus importants qui nous permettent de placer plein de compétences à plein d'endroits dans notre cerveau.
Donc j'imagine que si on étalait un cerveau, en fait, ça serait beaucoup, beaucoup plus grand que la taille d'un crâne.
Et il y a certains chercheurs qui disent que c'est la taille d'un oreiller, une tête d'oreiller.
D'accord, ok.
Donc tu peux faire. Je te dis pas de faire le test, hein, mais tu peux regarder ce que c'est la taille d'un oreiller.
Alors, j'ai pas prévu de faire le test.
Sinon, tu peux aller dans certains laboratoires, ils te le font, ils te montrent après.
D'accord, ok. Je vais pas le faire avec le mien. Mais alors, la question que je me pose, donc tu dis les plis, c'est les mêmes. Est-ce que les enfants, ils naissent égaux? Ou alors parce que, en fonction de la manière dont les parents. Alors, il y a la manière dont la mère. À consommer alcool, cigarettes, etc. On a vu ça tout à l'heure. Il y a aussi la manière dont tu parles au fœtus. Mais est-ce que tu nais égaux ou pas à la fin ?
Je pense que ça, c'est une question hautement philosophique. Je pense que pour pouvoir répondre à ce type de question, il faudrait plusieurs thèses. Mais en tout cas, moi, c'est cette question qui m'a amenée à faire ces recherches-là. Parce que on sait qu'on est dans un monde où on est, où concrètement, en fait, on n'est pas tous égaux. Hein. On n'a pas, on ne naît pas dans les mêmes familles, on ne naît pas dans les mêmes pays, et on n'a pas accès aux mêmes ressources. Et en réalité, moi, au tout départ, c'était sur ça que je voulais travailler. Sauf qu'en France, on ne travaillait pas vraiment sur le développement de l'enfant en fonction des différents milieux socio-économiques. C'était un peu des tabous, ça. Alors que dans d'autres pays, pas du tout. Mais ça, je pense que c'est aussi propre à la France et à son histoire. Cependant, ces dernières années, en tout cas scientifiquement, on a essayé d'aborder cette question-là. C'est une question où d'ailleurs, il y a toujours beaucoup de... C'est toujours difficile parce que, pareil, il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est très politique, c'est très... Bon bref, sans rentrer dans tous ces détails. On sait qu'un cerveau qui se développe, il ne se développe pas tout seul, il se développe dans un environnement. Et on sait que ce soit l'alimentation, la génétique, que ce soit l'environnement familial, la manière dont on s'adresse à moi, si j'ai des frères et sœurs, si je vis à Grigny ou si je vis à Paris, si tout ça, ça va influer sur le développement. Et on sait que, en fonction de ça, les enfants, ils n'ont pas les mêmes compétences. Et y a des recherches qui ont montré que c'est pas à 3 ans, c'est pas à 6 ans, c'est déjà à 18 mois. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à dire.
C'est hyper dur. Et du coup, le système éducatif, il a un rôle majeur à jouer dans ce que tu décris, c'est-à-dire que ce soit de la part des parents ou que ce soit de la part du système scolaire, tout simplement, non ?
Oui, bien sûr, mais même avant, j'ai envie de te dire même avant, justement, quand on parle de différence entre les enfants, d'égalité des chances, alors moi, je déteste ce terme d'égalité des chances, alors que pourtant, je travaille dans ce milieu, mais vraiment, je déteste ce truc d'égalité, parce que je pense que c'est une hérésie de penser comme ça. Mais pour s'attaquer à ce problème, la plupart du temps, on pense au décrochage scolaire et on va au lycée, on va au collège et on aide ces enfants-là qui ne vivent pas dans les mêmes milieux et on leur trouve. Voilà. Mais on ne pense jamais à la petite enfance. Et souvent, alors que pour autant, d'un point de vue vraiment de ce qu'on sait en termes d'avancée scientifique, si on s'attaque à cette période-là et qu'on aide les parents et qu'en plus de ça, on met une structure des politiques publiques efficaces, c'est un gain inégalé. Pour leur santé, leur accès à l'emploi, leur diplôme, etc. Et même dans leur acte de citoyenneté. Et donc ça, c'est assez fou que ça soit ignoré aussi, ignoré en fait de nos politiques publiques. Il n'y a que très récemment qu'on s'y intéresse. Et il y a des recherches qui ont montré que justement des enfants qui ne sont pas nés avec les mêmes chances que les autres, qui ont eu moins, quand on leur a mis justement une structure, qu'on a aidé les parents, qu'on les a justement outillés, qu'on les a accompagnés, qu'il y a eu des professionnels qui étaient là pour justement éveiller ces enfants, eh bien, ce sont des enfants qui n'ont pas les mêmes destins. Ce sont des enfants qui ont des destins tout à fait similaires à d'autres qui vivent dans des milieux avec des ressources.
Mais alors, je t'ai posé la question au tout début, mais je ne sais pas très bien si tu m'as répondu, donc je vais te la reposer néanmoins. Est-ce que ça suppose du déterminisme? Parce qu'en fait, ce que tu dis, enfin de ce que j'entends en tout cas, c'est la période de 0 à 5 ans, elle est hyper importante. C'est là où le cerveau, il est le plus malléable, parce qu'il est en train de se former. Donc en fait, il peut beaucoup plus facilement apprendre le relationnel et sans doute tout ce qu'on peut envisager, les langues, etc., etc. Mais du coup, si ce n'est pas le cas, il y a une forme de déterminisme qui est hyper fort ou...
Mais à mes yeux, c'est un déterminisme structurel. Plutôt que... Moi, ce que j'aime pas dans ce déterminisme social, c'est de blâmer les parents. C'est de dire que c'est à cause d'eux. C'est un peu comme avant, quand il y avait une maladie psychiatrique, il y avait un schizophrène. Ah, c'est à cause des mères, à cause des pères. Mais c'est faux, ça. Enfin, ça, c'est... Et je pense que dans le livre, j'avais envie de défendre cette idée de dire que c'est nos systèmes qu'il faut changer, l'intérêt qu'on met à la petite enfance qu'il faut changer, que les métiers de la petite enfance, c'est pas de la garderie, que ce déterminisme social, il est lié au fait qu'on sait pas prendre efficacement en charge ces choses-là, et qui fait qu'on est un des pires au monde en termes d'équité. On a nos grandes écoles. Alors bon, moi, j'ai rien contre les grandes écoles. Hein. Je suis enseignante à l'ENS, mais ça, c'est pas. C'est au contraire. Je pense qu'il faut justement, il faut des bonnes écoles, de très bonnes écoles, mais il faut pas qu'on ait des écarts comme ça aussi importants. Et on sait que c'est dans la petite enfance, on aide ses enfants, on donne plus à ses enfants, on s'occupe plus de ses enfants, pas juste à les nourrir et à les changer, mais en plus de ça, on les éveille, on les aide à se développer, à avoir confiance en eux. Ce sont des enfants qui ensuite, par rapport à ça, se sentent plus capables, parce qu'ils le sont. Et donc le déterminisme social, c'est quelque chose qu'on a créé, nous, avec la manière dont on a structuré notre société.
C'est dur ce que tu dis quand tu dis que le système français, c'est l'un des pires au monde. Enfin, ah oui, pire au monde, je ne sais pas, mais dans le pire dans les pays occidentaux.
Voilà. Dans l'OCDE, on est en queue de peloton.
Mais qu'est-ce que font les autres qui est si différent ou exemplaire?
Si on prend un exemple, nous, ça fait 20 ans qu'on a ce problème de ne pas savoir résoudre. Nous, on stagne depuis 20 ans, alors que dans d'autres pays, comme en Espagne ou au Canada, on a un accès qui est complètement différent. Alors, ça, c'est super difficile de parler des autres pays, parce que ça demanderait à rentrer dans plein de détails sur plein d'aspects. Mais en France, la relation qu'on a avec les tout-petits, c'est vraiment très spécifique de la France. Et alors, il faudrait, pareil, peut-être une thèse là-dessus pour comprendre les croyances autour des tout-petits. Mais là, il n'y a pas longtemps, on parlait avec des papas africains et ils me racontaient ce qu'ils faisaient avec leurs enfants et tout ça. Et je me disais, mais c'est incroyable. Et vous voyez, on a beaucoup de clichés sur la parentalité, notamment la parentalité qui est dans des pays qui ne sont pas les pays occidentaux. Et la place de l'enfant, parfois, a une place beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Et nous, en France, franchement, on a du retard.
D'accord.
La place de l'enfant, de savoir que c'est... On a eu Dolto qui nous a beaucoup aidés, qui a dit l'enfant a une voix, c'est un être. Mais ouais, en France, vraiment, quand je vais dans les crèches et quand je vois des professionnels, et elles me disent, mais avec les règles et la structure dont c'est fait, on ne peut pas prendre soin vraiment correctement de nos enfants. On a 6 enfants à s'occuper et on est toute seule pour 6. Vous imaginez, même il y a 4 pour les moins de ceux qui ne marchent pas, ils sont 3... Elles ont 3 bébés à s'occuper, 3 bébés. Déjà, une maman avec un enfant, c'est extrêmement difficile. Donc, même une professionnelle, c'est pas des conditions pour pouvoir avoir un accueil correct.
Oui. Et dans les autres pays, ils arrivent à avoir plus de puéricultrices par enfant ?
Alors, les systèmes d'accueil sont un peu différents. Nous, on a quand même un système d'accueil où on a des lieux de petite enfance, etc. Là-bas, il y a beaucoup de nounous, de nourrices, où c'est beaucoup aussi gardé par des familles, en fait, par les familles. Par exemple, là, je parlais avec un pédopsychiatre au Canada. Il disait, en fait, il n'y a pas si longtemps, beaucoup étaient gardés dans les familles, par les grands-mères, par les tantes, les oncles, etc. Il y avait un système, en fait, familial pour les D'accord. enfants. C'était pas comme nous, institutionnalisé. Ça, c'est aussi lié à la place de la femme et de son travail, en fait, de l'accès au travail. Elle travaille plus, etc. Donc, tout ça, ça s'explique par ces choses. Donc, déjà, le mode de garde est un peu différent. Par exemple, en Afrique, il n'y a pas très peu de crèches. La majorité, ils sont gardés dans leur famille. Et donc, voilà. Donc, tout ça aussi, c'est... Nous, on a institutionnalisé la petite enfance et on n'a pas mis peut-être tous les ingrédients qu'il fallait.
Et il y a une croyance que j'ai, enfin, quelque chose que j'ai appris, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai, donc du coup j'en profite, je te pose la question. Une chose que j'ai appris, c'est qu'un enfant en bas âge, il avait besoin de voir un maximum de figures adultes pour pouvoir se développer correctement. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a inventé la famille nucléaire, donc papa, maman, les enfants. Enfin, papa, papa, maman, maman, enfin bref. Mais en tout cas, que deux figures adultes. Et que ça, en fait, c'est pas idéal non plus pour l'enfant. Je ferai référence à ça parce que tu parlais des grands-parents, des oncles, des tantes, etc.
Alors ça, c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, il y a des recherches qui montrent que, par exemple, plus les enfants ont eu des locuteurs autour d'eux qui leur ont parlé, plus ce sont des enfants qui ont des maîtrises de langage plus hautes. Donc, en termes de variabilité. Parce qu'en fait, les enfants, pour pouvoir apprendre, faut qu'ils... c'est contre-intuitif, mais il faut justement, plus tu as de personnes qui t'ont parlé, plus tu es capable de pouvoir dire « Ah ok, il y a une voix qui change, un ton qui change, des manières de parler qui changent. » Et ça, ça va les aider. Donc ça, c'est une première chose. Et puis en plus, on sait que plus il y a de la variabilité, même en termes d'origine, en fait, de visages aussi qui ne sont pas tous des visages caucasiens, et ben on sait que ça, ça va aider les bébés à devenir plus experts, par exemple, pour les visages. Bon voilà, ça c'est des expériences de base, mais par rapport à ce que tu dis sur les structures de famille, nous on a vécu des grandes transformations depuis l'après-guerre, autour justement, au début c'était des familles qui vivaient toutes ensemble, on avait les grands-mères, les grands-pères, voilà. Et maintenant, ça, avec le fait qu'on aille plus dans les villes, ça a aussi séparé des familles, donc on n'a plus du tout les mêmes systèmes et les mêmes repères. Mais il y a plein de recherches qui montrent qu'à quel point les grands-parents sont très importants pour les petits. La relation qu'ils vont avoir avec eux, même pour les parents, de savoir qu'ils vont avoir un relais, qu'ils vont être aidés, qu'ils vont être soutenus, parce que c'est dur d'être parent. C'est très dur. Et il faut profiter des expériences de ces parents quand évidemment il y a des bonnes relations et qu'il y a une bonne entente, hein, bien sûr, pour ça. Et quand on a déstructuré un peu tout ça, ça a mis en difficulté. Regardez le nombre de femmes qui parlent justement du burn-out maternel, qui disent qu'elles s'en sortent pas parce que c'est dur, et les papas aussi qui nous disent c'est hyper dur en fait. Et quand on est tout seul, quand on est juste deux pour un, quand on a des familles à côté, déjà c'est déjà pas pareil. Donc évidemment ça, mais il y a d'autres dans le monde entier, les choses sont pas nécessairement comme ça. Il y a des, par exemple au Japon, les familles vivent encore ensemble beaucoup.
Donc en fonction des cultures, ça, et j'imagine que sur le continent africain, ça bouge aussi.
Ah oui, tout à fait. Donc les systèmes occidentaux qu'on a maintenant en termes de représentation de famille, ça, on voit que ça met en difficulté.
Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu n'es pas que prof à Normale Sup. Que...
je suis enseignante, je n'ai pas le...
Ah pardon, excuse-moi,
je fais la différence. Non mais je préfère faire attention à ça.
Enseignante à Normale Sup. Tu es aussi praticienne, c'est-à-dire qu'en fait tu travailles sur la mise en place... concrètement, sur la mise en place, en particulier de l'éducation des enfants. Comment on met en place, comment on fait les différences?
Alors, en fait, moi, quand j'étais en recherche fondamentale, je me disais, c'est trop bien ce qu'on est en train de découvrir, mais on n'arrive pas à l'appliquer. En fait, je me trompais complètement, hein, parce qu'il y avait déjà tellement de choses qui étaient faites sur le terrain que j'ignorais totalement. Donc moi, mon rôle, ça a été de voir qui fait quoi. Et j'ai découvert des certains programmes, comme le programme Parler Bambin, ou d'autres que mettaient en place certains de mes collègues dans l'université, sur ce qu'on appelle de la recherche interventionnelle. Donc c'est un peu la recherche de terrain, quoi. Et tu t'appuies sur le terrain pour pouvoir justement faire des choses. Et franchement, l'écart, il a été très important. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'apprendre et comprendre parce que c'était très complexe de comprendre les enjeux du terrain. Et donc, du coup, ce qui est super chouette, c'est qu'en alliant ces deux choses-là, il se passe vraiment des choses incroyables. Enfin, les programmes auxquels j'ai participé, justement sur donner plus à ceux qui ont moins, on voit que ça marche, en fait. Et ça, c'est assez incroyable de voir ça quand on est chercheur aussi, de se dire « Ah, mais quand on mesure tout et qu'on fait ça, et qu'en plus de ça, on a le terrain avec nous, qui font un boulot incroyable, en fait, on montre des trucs incroyables. » Et ça, en France, ça n'existe pas en petite enfance.
Donc, en fait, il faudrait investir sur la petite enfance, c'est ça que tu dis, finalement.
Investir sur la petite enfance, mais aussi même sur des projets un peu plus applicatifs de ce que nous, on fait en sciences cognitives. Il y a énormément de choses où on peut mettre, où on peut aider. Enfin, une des choses qu'on fait dans mon cours, c'est justement d'essayer d'utiliser les sciences cognitives pour des enjeux de demain. Et donc, du coup, la petite enfance, bien sûr, parce que ça, c'est ma passion, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et etc. C'est vraiment des convictions que j'ai profondes. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Il y a aussi la transition écologique, il y a aussi la santé, il y a aussi la lutte contre la pauvreté. Il y a plein de choses sur lesquelles les sciences cognitives, elles ont un mot, et il n'y a pas assez d'initiatives. Mais ça démarre. Donc, moi, mes étudiants, ils travaillent sur ça, donc ils font des trucs d'ailleurs incroyables. Donc,
Et j'ai interviewé dernièrement le CEO de Babylou, tu vois, donc Babylou, les crèches.
Ouais.
Et il me disait qu'en Allemagne, par exemple, c'est assez courant que les enfants ils puissent avoir accès à des fours, En fait, ils apprennent des choses qui sont beaucoup plus... Enfin, en France, jamais on ferait ça. et en fait, ils ont... Enfin, la question que je me pose derrière, parce que tu parles d'écologie, c'est est-ce qu'on devrait leur apprendre plutôt à être dans la nature, les plantes, etc., qui sont pas des apprentissages qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait leur apprendre plus des choses manuelles qu'ils apprennent pas non plus des tonnes aujourd'hui? On se concentre beaucoup en France sur l'intellectuel. Comment tu vois ça, toi?
Je pense qu'effectivement, le fait qu'ils puissent multiplier les activités, quelles qu'elles soient, c'est hyper bénéfique. Et quand on regarde le programme qu'il y a dans les activités pédagogiques d'une crèche, on se rend compte que c'est pas aussi varié que ça, parce que tout simplement, elles n'ont pas les moyens. Franchement, elles n'ont pas les moyens pour aller dans la nature. Ça demanderait des choses qu'elles n'ont actuellement pas. Mais moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Je pense que ça serait fabuleux. Mais encore une fois, parce que faut se dire que les crèches, et ça peut-être le CEO là, de Babylou, il t'en a parlé, avant, c'était des lieux de gardiennage. Les enfants, ils arrivaient, on les mettait dans des tourniquets, on les déshabillait, on leur disait « retirez vos vêtements contre les virus, ici on va vous donner à manger, on va vous changer, puis voilà ». Il n'y a que maintenant, il n'y a pas si longtemps, on parle de projet pédagogique. Il n'y a pas si longtemps, on parle justement de l'empathie, de la communication, d'ailleurs même non signé avec les signes et tout ça. C'est hyper récent. Avant, c'était... D'ailleurs, par exemple, les directrices de crèche, c'est souvent des infirmières puéricultrices. Ouais. Donc, l'accès le soin, la santé, c'était la priorité dans les lieux d'accueil. Et la pédagogie, l'éveil intellectuel, ou même... Aller dans la nature, c'est un éveil intellectuel, puisque c'est
bien sûr.
Apprendre à voir comment la nature, elle se développe, etc. Je pense qu'effectivement, tout ce genre de choses, nous, en France, on est encore à l'ancienne. Mais il n'y a pas que dans les crèches. Là, il n'y a pas longtemps, on travaillait avec des enseignants de maternelle. C'est aussi les activités ou de pédagogie active. Et même moi, dans mon master, la pédagogie active, il n'y a que mon cours où c'est une pédagogie par projet. Le reste, c'est toujours magistral. Étudier ce papier, c'est la pédagogie de manière générale en France qui est encore hyper...
Descendante, en fait.
Ah ouais, à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Et c'est bien parce qu'il y a plein de nouvelles propositions. Donc, c'est en train de changer. Mais on part de loin par rapport à d'autres pays. Ou l'Allemagne, les États-Unis... Même certains pays, même au Maroc, où j'étais allée à l'université, la manière dont ils voient les enseignements, c'est déjà très différent de nous.
Et si les parents veulent, par exemple, faire de l'apprentissage actif, parce que ce n'est pas fait à l'école, comment ils peuvent s'y prendre? C'est quoi, précisément?
Alors, moi, j'ai envie de dire l'apprentissage actif, déjà, du quotidien. Ça veut dire même faire le ménage, prendre le balai, passer l'aspirateur. Les tout-petits, quand ils peuvent aussi faire ça. Ils peuvent aussi aider à faire la cuisine, ils peuvent aider à faire... c'est pour ça, tu parlais de four avant. Ils peuvent aider à faire ces choses-là. Parce que les enfants, ils sont curieux de tout. Et puis surtout, en plus, quand ils voient les adultes faire des choses, ils disent « Ah ouais, mais ça a l'air d'être intéressant, ça. Moi aussi, j'ai envie de faire. » Et souvent, on dit « Non, t'es trop petit encore pour faire ça. » Non, en fait. Enfin, vous pouvez prendre même les porte-bébés, vous prenez dans le porte-bébé, vous êtes en train de, je sais pas, préparer une omelette, vous expliquez, tiens, regarde, on va casser un œuf, tiens, touche l'œuf, regarde comment il est. Il y a plein de petites activités qu'on peut faire avec les enfants dans le quotidien. Et après, si on veut faire des choses un peu plus élaborées, alors j'ai envie de dire, il y a le classique gommette, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez amener les bébés au musée, vous pouvez amener les bébés à des concerts de musique classique, vous pouvez, ou des musiques d'afro, j'en sais rien. Enfin, voilà ce que je veux dire, vous voyez. En fonction de vos passions. Et ils sont capables. Et justement, ça va. Et vous allez voir à quel point ils s'amusent. Ils adorent découvrir de nouvelles choses. Mais souvent, on dit non, comme il est trop petit. Il est trop petit encore.
Par exemple, quand tu penses au concert. Enfin, il y a deux choses qui m'ont fait. Parce que tu parlais de musée. Et ça me pensait à la perception des couleurs par les enfants. Et puis, les concerts, ça me pensait aux oreilles. Tu vois, leur capacité à entendre des sons qui sont un peu forts, peut-être.
Oui, après, il faut mettre des casques. Mais maintenant, il y a plein de choses qui existent. Pour les jeunes enfants, on peut protéger, effectivement, leurs oreilles. Mais ça peut aussi être des concerts, même dehors. Enfin, moi, je sais que ma mairie, elle organise des concerts dans le parc à côté de chez moi. Enfin, voilà, il faut se renseigner sur ce genre de choses. Et puis après, il y a même les ludothèques, les médiathèques. On peut se rapprocher. Maintenant, il y a plein d'ateliers avec les tout-petits qui sont organisés. Avant, pas du tout. Moi, j'étais dans une association, on faisait ça, en fait. On faisait des ateliers dans les ludothèques, on parlait du langage, on parlait du développement de l'enfant. Et elles étaient friandes de ça, et il y avait plein d'ateliers, même massage. Faut se renseigner, parce que maintenant, il y a une offre beaucoup plus diversifiée pour les tout-petits quand on est un jeune parent. Et avec ces mairies, on peut regarder aussi les associations.
Donc, et la perception des couleurs, juste, si tu peux nous...
Ah oui, alors ça, c'est le fameux ils vont en noir et blanc. D'ailleurs, on achète des imagiers en noir et blanc pour pouvoir stimuler les enfants. Alors ça, c'est une mode, mais en réalité, les bébés, très très tôt, même d'ailleurs dès la naissance, perçoivent les couleurs. En fait, ce qui va être très important pour eux, c'est les contrastes. Le fait que ça soit très contrasté. Si vous mettez effectivement du rose avec du orange, par exemple, c'est probable qu'ils n'arrivent pas vraiment encore à déterminer la différence. Mais si vous mettez du vert avec du noir ou du vert avec du blanc, ils vont percevoir la différence. Donc, vous pouvez justement leur montrer des livres avec tout ça. Vous pouvez leur montrer plein de choses. Vous inquiétez pas, leur cerveau est tout à fait capable de pouvoir analyser ces choses-là. Et même, ils adorent, en plus.
C'est quoi les plus grandes fausses affirmations que tu as rencontrées ou celles qui t'énervent le plus, peut-être ? Des croyances comme ça, ou comme celle-là, les enfants voient en noir et blanc ou...
Ouais, moi, celle qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est celle du cerveau reptilien, le cerveau archaïque des bébés. C'est des réflexes archaïques qu'ils ont. C'est ce fameux... Les réflexes archaïques, c'est quand on te tape avec un petit marteau, là, enfin un petit outil là, chez ton médecin,
sur le genou,
et ta jambe remonte. C'est un peu tous ces... Maintenant, moi aussi, j'ai appris que le cerveau, à la naissance, il avait des réflexes reptiliens ou ce genre de choses. Je l'ai appris. Et puis, en 10 ans, ça a complètement disparu, en fait. Parce que ça... On a découvert des choses qui nous ont montré que c'est absolument pas le cas. Parce que les bébés ont des compétences très sophistiquées. Et c'est pas juste des réflexes, en fait, de se tourner quand il y a une voix qui arrive. C'est pas juste des réflexes de téter. C'est pas tout ça, en fait. C'est des choses qui vont, enfin, ils sont dotés d'outils très puissants à la naissance. Et ce sont ça, en fait. Et donc ça, parce que le cerveau reptilien, tout ça, c'est ce qui va donner raison à ces gens qui disent, oh, c'est pour ça qu'ils mordent, qu'ils griffent. C'est un peu comme les animaux, faut les dresser. Ça me fait des frissons.
ça m'énerve.
Et puis, l'autre chose aussi où vraiment... Enfin, je ne sais pas si ça m'énerve, mais c'est plutôt ça m'interpelle, c'est... ils ne comprennent pas pourquoi tu lui parles comme ça. Et ça, c'est des choses qui m'interpellent. Dire, mais... Bah, justement, il faut lui expliquer, en fait, pour qu'il comprenne et qu'il apprenne. Par exemple, dire, il a touché... je sais pas, il a pris un truc qu'il ne fallait pas prendre. Mais non, prends pas ça. Bah, tu lui dis, ça, ce n'est pas bon pour toi, c'est dangereux. Et en fait, c'est un peu comme si, dans un sens, il y a des choses où... C'est le respect. Tu vois, parfois j'ai l'impression le respect, parfois on en a manqué. Ou après, je sais que tout ça, c'est des choses qui sont, comment dire, on a tous nos sensibilités, mais je pense que ça, c'est ma sensibilité, c'est de sentir parfois où on a l'impression qu'ils sont pas respectés, qu'on les humilie. Ça, c'est des choses que je supporte pas. Et je pense que c'est pour ça, mais on parle pas, ils comprennent pas. Ça, c'est de l'humiliation pour moi. C'est comme si tu disais à quelqu'un, même quelqu'un qui sait pas parler ta langue, bah parle en français, je comprends pas. C'est humiliant, tu vois. C'est le même truc que je ressens, moi. Et je pense que c'est pour ça qu'avec les bébés, j'avais mon combat.
Et peut-être la dernière question que j'aurais, c'est quelle est justement la question qu'on te pose jamais et qui te semble essentielle ? S'il y en a une, hein. Moi, j'ai essayé de couvrir autant que je pouvais. Mais...
Non, attends, je réfléchis. Une question qu'on ne me pose jamais. Qu'est-ce que vous savez pas encore, qui vous manque, qu'on comprend toujours pas. Je pense qu'on n'arrive toujours pas à comprendre comment aider vraiment certains enfants, ceux qui ont des maladies neurodéveloppementales, ceux qui ont des troubles. Et ça, ouais, ça c'est des choses où vraiment on doit vraiment faire plus de recherches, on doit vraiment comprendre ce qui se passe avec ces enfants, parce que on les voit tous et on les voit en difficulté. Et donc, je pense que peut-être ça, c'est des choses que, voilà, qu'il faudrait peut-être plus aborder.
Pas mal. Non, non, mais hyper intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où. Tu fais l'un ou l'autre, hein, claquer la porte. Tu peux faire les deux aussi, c'est comme tu veux.
Bah, je claque une porte pour en ouvrir une autre, ok ?
Vas-y.
Donc, je claque la porte des préjugés négatifs sur les bébés. Sûr, ils sont pas capables, ils sont trop immatures, ils vont pas comprendre. Et puis, de toute façon, faut faire la. Enfin, voilà, ils ont le temps. Non, il y en a qui ont pas le temps, faut s'occuper d'eux, faut les aider. Faut aider aussi les parents en difficulté, pas les culpabiliser, donc, et les pointer du doigt. Donc, on claque la porte à tout ça et on ouvre plein de nouvelles possibilités qu'il y a sur justement la prise en charge de ces enfants, de donner plus à ceux qui ont moins. Et surtout d'agir pour nos bébés, parce que c'est le futur de notre société.
Super, merci beaucoup Nawal.
Merci à toi, c'est un plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.